avec cette image qu'il avait de ce que Dieu est en train de faire au milieu de nous. Alors qu'on le louait, l'adorait ce matin, il a vu comme un ciel qui s'ouvrait
et puis des boucliers qui descendaient. Des boucliers qui descendaient devant chacun, chacune d'entre nous, et ces boucliers se mettaient devant nous pour nous protéger des traits enflammés du malin, et alors qu'on était assis les uns à côté des autres, notre bouclier était lié à celui d'à côté aussi. C'est comme s'il protégeait nous, mais il y avait une forme de protection mutuelle aussi ensemble. Et j'aimerais vous dire ce matin que ces choses concordent. Le Saint-Esprit a quelque chose de particulier à nous dire ce matin, et je crois que c'est vrai. Nous savons que dans ces temps de la fin, l'ennemi se démène pour essayer de nous éloigner de Dieu, pour essayer de nous envoyer des traits enflammés, pour nous décourager, pour nous faire tomber, pour nous empêcher de rentrer dans le plan de Dieu pour nos vies, pour nous faire peur, pour faire penser qu'il est plus grand que Dieu, alors que ça n'est pas vrai. La réalité nous dit qu'il a été vaincu à la croix, que Satan a été vaincu à la croix, et que nous, alors que nous laissons revêtir de l'armure du chrétien, Ephésiens 6, de cette armure qui est là, de ce casque du salut qu'on enfonce bien sur notre tête pour empêcher les traits enflammés de venir perturber nos pensées, et de ce bouclier de la foi, bien sûr, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, et on se revêt de ces choses-là, on laisse le Seigneur nous revêtir de ces choses-là, et nous sommes efficaces. Cela est efficace contre l'ennemi. Et si dans ta vie ce matin, il y a quelque chose de l'ordre d'un combat, s'il y a quelque chose de l'ordre d'une tempête, s'il y a quelque chose de l'ordre de quelque chose que par tes propres forces tu n'arrives pas à combattre, eh bien j'aimerais te dire ce matin, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Le bouclier de la foi, il est pour toi. Il est pour nous ce matin. Et je suis dans une série de messages, ça introduit parfaitement ce message de ce matin sur réveiller les héros. Hébreux 11, les héros de la foi. Et ce matin, nous allons voir ensemble le personnage de Noé. On a vu plusieurs personnages. Ceux qui n'ont pas entendu mes messages, il y a une série, vous pouvez aller sur le site internet de l'église, il y a une série de messages sur les réveiller les héros. On a pris déjà plusieurs personnages. Et aujourd'hui, on va parler ensemble du personnage de Noé, et ça va nous faire du bien. On va voir comment ensemble, contre vents et marées, contre même toute la population qui était alentour de lui, qui le prenait pour un fou, qui étaient tous dans une autre style de vie totale de ce que lui vivait, eh bien il a tenu ferme malgré tout, et il a vu la main de Dieu agir au bout de tout cela. Et j'aimerais te dire en préambule de ce message, peu importe ce par quoi tu passes, accroche-toi, et avec la patience, avec le temps qui va passer, tu verras la main de Dieu. Tu verras la main de Dieu agir dans ta vie. Tu verras la délivrance arriver. Tu verras quelque chose de l'ordre du miraculeux se passer dans ta vie. Je fais pas ça pour vous lancer de la poudre aux yeux. C'est notre Dieu. Il est comme ça. Il peut pas faire autrement. C'est un Dieu du miraculeux. Il est comme ça. C'est notre Dieu. Amen.
Amen.
C'est parti. Noé a vécu un moment de l'histoire de l'humanité où le livre de la Genèse nous dit que la terre était corrompue. Elle était pleine de violence, nous dit la Bible. Et que tous les hommes et les femmes étaient mauvais. Ils étaient méchants et ne pouvaient s'empêcher de faire le mal. Incroyable quand même. Et en plus, ils étaient bien avec ça. Ça ne les dérangeait pas. Zéro culpabilité. La vie normale. Faire le mal, la méchanceté, était devenue une norme totalement acceptable pour eux. Le mal avait tellement corrompu le monde que Dieu en était affligé dans son cœur. Ça l'afflige dans son cœur, le mal, la méchanceté. Et il a eu le temps de voir ces choses s'installer graduellement. Ça ne s'est pas passé comme ça. Clac. Ça a pris du temps. Partout, ça s'est mis à gangréner tranquillement. Les peuples, à cette époque-là. Pas oublier que les gens vivaient 900 ans et plus, à cette époque-là. Donc ça a eu le temps de s'installer. Et après avoir patienté si longtemps, Dieu s'est mis à regretter d'avoir fait l'homme. Alors il va décider d'ôter toute cette méchanceté et d'ôter l'homme de la terre. Alors, les gens, c'est vrai, vivaient beaucoup plus longtemps qu'aujourd'hui. Et c'est ainsi que Noé, à l'âge de 500 ans, a eu ses fils. Hein? C'est un petit jeune. À l'âge de 500 ans, il a eu ses fils. Hein? Il a pris le temps que ça arrive, hein? Sem, Cam et Japhet, ses trois fils. Et imaginez-vous, il en avait 600 lorsque il a achevé de construire l'arche. Donc ses fils étaient des petits jeunes de 100 ans lorsque le déluge est arrivé sur la terre. Des petits jeunes de 100 ans. La Bible nous dit que Dieu se révéla à lui parce qu'il avait trouvé grâce aux yeux de Dieu au milieu de ce monde corrompu. Extraordinaire. Il y a des choses merveilleuses à découvrir. On va en voir quelques bribes parce qu'on ne peut pas faire tout le tour de ce personnage magnifique ce matin en un message, mais magnifique. Il avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Noé était un homme juste et intègre dans son temps et il marchait avec Dieu, nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Dieu va lui donner les dimensions de l'arche, 150 mètres de long, 25 mètres de large, 15 mètres de haut. Il va lui donner les dimensions de l'arche et ça va durer une centaine d'années, une petite centaine d'années à se réaliser. Et oui, parce que, comme moi, lorsque j'ai acheté ma maison et que j'ai dû, par la force des choses et les encouragements de ma femme, me mettre à bricoler, et ça a fait peur à tout le monde, à ma femme en premier, quand j'ai commencé à me mettre sérieusement à bricoler avec une tronçonneuse entre les mains, Noé a dû s'y mettre aussi. Parce que Noé n'était pas un constructeur de bateaux. Il a dû s'y mettre. Alors, on pourrait parler longtemps de tout ça, mais vous lirez les détails dans les chapitres 6 à 10 du livre de la Genèse. Mais en relisant cette histoire, en la creusant, en l'imaginant, en mettant en scène dans ma tête les choses qui se sont passées, etc., il y a une scène à laquelle j'aurais aimé assister. Il y a une scène à laquelle j'aurais aimé assister, j'ai aimé penser à ça cette semaine, qu'est-ce que c'était magnifique. Le moment où Noé en parla à sa femme. Hein? Le moment où Noé en parla à sa femme. Imaginez-vous une petite mise en situation ce matin. Imaginez-vous, chérie, aujourd'hui, écoute, j'ai un petit truc à te dire. Il va y avoir des changements radicaux dans notre vie. Ah ouais, quoi, chérie? C'est vrai, tu vas enfin m'acheter cette robe en peau de chameau que j'ai vue l'autre jour et tout ça. Waouh, ça va être magnifique, quoi, hein? On va déménager, on va enfin avoir l'eau courante chez nous à la maison. Non, chérie, non. Dieu m'a parlé. Ah oui, il t'a parlé, c'est fou. Mais il t'a dit quoi? Il t'a dit qu'il allait nous bénir. Il t'a dit qu'on allait enfin être riche. Non, chérie. Il m'a dit de construire une arche. Quoi? Une quoi? Un coffre, littéralement dans l'hébreu. Un coffre, quoi? Un coffre. Comment ça, une arche? Ben oui, une arche qui flotte, un bateau, quoi. Et puis, ben, il sera assez grand. Un peu plus grand que notre village, tu vois. Parce que... Il aurait pu comparer à un stade de foot, ou quelque chose, mais le foot n'avait pas encore été inventé à cette époque-là, donc il n'a pas pu prendre l'image du stade de foot. Ah oui, c'est ça qu'il t'a dit, chérie. Et est-ce qu'il t'a dit aussi pourquoi il te demandait de construire un bateau au beau milieu de nulle part, où il n'y a pas de mer, pas de lac, pas de rivière? Est-ce qu'il t'a dit ça, chérie? Ça me paraît un petit peu fou tout ça, quoi. Une quoi? Une arche? Je sais, ma bibiche, tu sais... Mais il y a encore autre chose que je t'ai pas encore dit. Quoi? Quoi? Encore autre chose? Tu vas rajouter encore quelque chose de plus à cette folie? Il m'a dit que je devrais faire rentrer dedans deux animaux, un mâle, une femelle de chaque espèce d'animaux qu'il y a sur la surface de la terre, chérie. Me tape pas. Aïe, 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 aïe. J'imagine la face de la femme de Noé lorsque les éléphants sont arrivés. Hein? Lorsque les girafes sont arrivées, certainement que c'est à ce moment-là qu'elle a compris. Ok, je comprends pourquoi tu as fait 3 étages à l'arche, Noé, je comprends maintenant, les girafes sont là. Ok, je regrette d'avoir dit tout ça et d'avoir pensé mal de tout ça. On ne sait pas ce qui s'est passé avec sa femme. J'ai fait une espèce d'élan d'enthousiasme et d'extrapolation sur ce que je me suis permis sur ce passage. Mais j'aime imaginer comment Dieu, des fois, lorsqu'on marche avec lui, nous demande des choses un peu folles. Hein ? Ce n'est pas dire qu'il faut faire exprès de faire des choses folles, hein ? Mais parfois, il nous demande des choses qu'on ne s'attendait pas. Ça vous est déjà arrivé ? Hein ? Des choses qu'on ne s'attendait pas. Alors, après la construction de l'arche, je passe rapidement les 100 années qui se sont passées là. Noé, sa femme, ses 3 fils et les femmes de ses fils, les femmes de ses 3 fils sont entrées dans l'arche avec les animaux que Dieu avait amenés. Et Dieu lui-même ferma la porte de l'arche. Et la parole de Dieu s'est accomplie. À ce moment-là, on ne peut pas s'imaginer ces 100 années qui venaient de passer, où il a vécu les quolibets, les moqueries, les railleries de ses contemporains, peut-être même de ses proches. Peut-être même que de temps en temps, ses fistons disaient, à chaque fois qu'ils se devaient se lever le matin, l'année 89, bon, la pluie ne vient toujours pas, hein, on arrive bientôt au terme de ce bateau, encore une petite vingtaine d'années, quoi, une petite dizaine d'années là. Hein. Peut-être des moments de découragement en 100 années, on ne leur en voudra pas, si c'est arrivé un peu, hein, quand même. Et puis tout à coup, ils se retrouvent dans cette arche, Dieu lui-même ferme la porte. Et puis tous les animaux sont là. Et puis la pluie se met à tomber. 40 jours, 40 nuits sans s'arrêter. La pluie tombe. Et l'arche se met à flotter. Elle se met à flotter. Tant mieux pour eux d'ailleurs. Et elle a recouvert les montagnes. 7,5 mètres par-dessus les montagnes, nous dit la Bible. Et après 40 jours de pluie sans arrêt, Il va se passer 150 jours avant que la décrue commence à s'amorcer. Jolie croisière. 150 jours, plus les 40 avant, 40 jours avant, et la décrue commence à s'amorcer. Imagine-toi. Alors, quand les eaux ont commencé à baisser, on connaît l'histoire, Noé va envoyer un corbeau, le corbeau va faire plusieurs allers-retours, il va revenir sans jamais rien. Et puis, après, finalement, il va envoyer une colombe. Et cette colombe va revenir avec un rameau d'olivier dans le bec. Ça y est. L'eau a assez baissé. Et l'arche va accoster sur le mont Ararat. Et Noé et sa famille vont ouvrir la porte. Et ils vont descendre de l'arche. Ils vont libérer les animaux qui vont repeupler la terre. Et Dieu va faire alliance avec eux. Dieu va faire alliance avec eux, une alliance magnifique qu'aujourd'hui on peut encore admirer dans le ciel lorsqu'il y a un arc-en-ciel. Et Dieu a dit, je ne ferai plus jamais périr comme ça la population de la terre, promis. Quelle aventure incroyable! Quelle aventure incroyable! On ne mesure certainement pas 1/1000 de ce que ça a dû être de vivre cela. Et l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 7, nous dit ceci, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. J'aimerais ressortir ce matin quelques points de ce verset qui ont fait de Noé ce héros de la foi malgré lui. Premièrement, Noé avait une crainte respectueuse, nous dit ce texte. Dans le grec, c'est eulabeomai, une crainte respectueuse qui veut dire littéralement agir avec précaution. Prendre garde, révérer. L'attitude de Noé contrastait totalement avec l'attitude ambiante de ses contemporains qui étaient légers, qui étaient irrespectueux, qui étaient corrompus, qui étaient violents, qui étaient impurs. Lui avait cette crainte respectueuse de Dieu qui était là, qui était chevillé à son corps. Il agissait avec précaution face à Dieu. Il prenait garde, il révérait ce Dieu. Noé gardait son cœur. Il avait choisi de garder son cœur, d'avoir cette révérence devant Dieu. Et j'aime tellement cet exemple. J'aime tellement ce... Quel héros au milieu de ce monde corrompu tout autour de lui. Et il en va de même pour nous aujourd'hui, mes frères, mes sœurs. Lorsque je vous regarde, je connais beaucoup, beaucoup de vos vies, de situations que vous vivez à l'heure où on se parle. Des frères et sœurs ici au milieu de nous, qui se tiennent dans les valeurs de Dieu face à leur entourage, qui parfois vous jugent, qui souvent vous jugent, parfois se moquent même de votre foi, de vos principes, qui doivent, vous devez évoluer, parfois travailler dans une ambiance qui n'est parfois pas du tout saine, mais se tenir debout, vous vous tenez debout dans la foi. Vous vous tenez debout dans la foi, vous êtes ces héros-là, avec cette crainte respectueuse de Dieu, avec cette révérence de « Seigneur, ce n'est pas grave, je sais en qui je crois, je sais en qui j'ai cru, Seigneur, c'est toi, ce n'est pas les hommes, ce n'est pas les circonstances qui sont autour de moi, qui parfois sont contraires et pas faciles à vivre, je m'accroche à toi. » Et Dieu voit ta vie, Dieu voit ton cœur et ça l'honore profondément. Quel encouragement vous êtes pour moi, pour les frères et sœurs autour de vous. Et quelle interpellation vous êtes pour le monde qui vous regarde et qui parfois se moque, c'est vrai. Mais vous savez que en qui vous avez cru. Vous savez la vérité en laquelle vous croyez, qui est plus forte que tout. Alléluia. Noé est un exemple magnifique pour nous, pour chacun d'entre nous, ce matin. De garder son cœur pour Dieu au milieu d'un monde qui va dans un sens inverse de ce que nous avons comme valeur biblique en nous. Dieu est notre soutien. Je discutais tout dernièrement avec un frère qui me racontait sa situation à son travail, qui m'expliquait que dernièrement il avait été nommé à un poste à grande responsabilité dans son entreprise. Et il me disait qu'en parlant avec son directeur, il disait que Dieu l'aidait, que c'était plus fort que lui. De temps en temps, il le disait. Et son directeur lui répond, ne me parle pas de Dieu. Et ses collègues, il me racontait comment ses collègues qui lui font des coups par derrière, des manigances politiques dans son dos, etc. Et lui, il se tient au milieu de cette ambiance malsaine avec cette crainte respectueuse de Dieu en lui. Il tient ferme, il tient bon, il tient le coup. Quel encouragement ça a été pour moi de l'entendre me parler de ces choses-là. Il tient ferme avec ses principes de Dieu, bien chevillés à son corps, ce respect, cette crainte respectueuse de Dieu, cette révérence devant Dieu qui est là en lui. Dieu voit ces choses-là. Dieu voit sa vie à cet homme-là. Et Dieu l'honore profondément au milieu de cette situation, tout comme Noé. Tout comme Noé, au milieu du monde dans lequel il vivait. Alors, premièrement, il avait cette crainte respectueuse. Je nous encourage, chacun d'entre nous, à persévérer là où on est, dans nos combats, dans nos défis, dans nos moments d'épreuve, de tribulation peut-être. À rester caché en Jésus avec cette crainte respectueuse, Seigneur. Je ne me laisserai pas happer par les pensées du monde, à essayer de faire comme eux, à dire, s'ils me font ça, moi aussi je peux bien, etc. Ou de commencer à laisser mes craintes prendre le dessus, puis à prendre la situation en main, puis à essayer de faire toutes sortes de choses. Non, Seigneur, je resterai caché en toi, avec cette crainte respectueuse, avec cette révérence devant toi. Je sais que caché en toi, Seigneur, tu es ma délivrance. Tu es celui qui atteste sur ma vie que je suis un enfant de Dieu. Et tu es celui qui atteste que cette justice que je veux vivre au fond de moi, Seigneur, tu l'honores et que tu ouvriras un chemin au milieu de tout ça dans ma vie. Amen. Alléluia. Hein? Alléluia. Premièrement, une crainte respectueuse, Noé. Deuxièmement, l'obéissance était une évidence pour lui. L'obéissance était comme une évidence. Quand Dieu lui a donné ses directives, il n'a pas discuté. Ça nous arrive de discuter. Hein? C'est arrivé à, au tout grand aussi. Hein. C'est arrivé à Moïse de discuter au buisson ardent, Seigneur, un peu. Ouh. J'aime bien. J'aime bien parce que ça nous rend, ça les rend humains. C'est héros de la foi. Ça les rend accessibles. Ça veut dire que pour nous, c'est possible. Mais j'aime bien aussi voir Noé et puis me dire, attends, j'y peux grandir, là. Je peux aussi ne pas contester tout le temps et ne pas discuter et marcher dans une obéissance confiante. Que quand Dieu me demande quelque chose, c'est quelque chose de bon. On pourrait faire une longue liste des commandements de Dieu auxquels nous serions censés obéir ce matin. Je vous épargnerai ça. Mais ce matin, la question, elle est plutôt, sommes-nous enclins à obéir à Dieu ? Est-ce que c'est quelque chose de naturel chez nous ou est-ce qu'on est plutôt souvent tenté de discuter, de contrer, de palabrer, de raidir la nuque lorsque Dieu nous demande quelque chose ? Parfois, c'est même un réflexe. Premièrement, lorsque je suis face à un choix, à une décision, est-ce que je fais les choses en fonction de mes intérêts, de mes désirs, de mes envies d'abord ? Ou est-ce que je me pose la question de savoir si c'est en accord avec ce que je sais de Dieu, avec ce que je sais de sa personne ? Et deuxièmement, lorsque Dieu me demande quelque chose, est-ce que j'obéis sans discuter ? Ou est-ce que je suis, style Jonas, à l'opposé, à partir, à fuir, à l'opposé, pour pas faire face à ce qui me fait peur? Alors vous me direz, oui, mais Dieu m'a jamais demandé d'aller à Ninive comme Jonas pour leur dire qu'ils doivent se repentir, sinon le jugement de Dieu descendra sur eux. Hein? Non, mais lorsque Dieu te met à cœur d'aller témoigner son amour à ton collègue de travail qui a peut-être l'air triste, si triste. Lorsque Dieu te demande de t'arrêter vers cette personne qui mendie dans la rue, lorsque Dieu te demande de soutenir une œuvre chrétienne, ou lorsque Dieu te propose de rentrer dans son appel, et tant de choses. Noé n'a pas discuté, il n'a pas hésité. Il savait que ce Dieu bon avait des bonnes choses en réserve pour lui si il rentrait dans ce que Dieu lui demandait de faire, même si ça paraissait une arche. Il avait cette crainte respectueuse de Dieu et ce désir de lui obéir quoi qu'il arrive. Cette foi qui sait que Dieu sait ce qu'il fait s'il me le demande. Hein? Est-ce qu'on arrive à grandir là-dedans? Seigneur, ce que tu me demandes, tu sais ce que tu fais. Je ne comprends pas toujours tout, mais tu sais ce que tu fais. J'ai confiance en toi, Seigneur. Fais-nous grandir dans ton obéissance, Seigneur. Seigneur, au-delà de mes désirs, de mes choix à moi, Seigneur, c'est quoi tes choix ou tes désirs pour ma vie, pour nos vies? Aide-nous à rentrer pleinement dans cette marche obéissante pour être à la place où tu nous veux, quand tu le veux. Fais grandir cette foi dans nos vies. Ouais. L'ennemi aime tellement qu'on soit plutôt dans la désobéissance, alors c'est vrai, il va lancer ses traits enflammés. Il va lancer ses traits enflammés parce qu'il sait que si on n'est pas dans l'obéissance, on ne sera pas à notre place, on ne sera pas efficace pour Dieu. Alors, on a besoin de ce bouclier de la foi. J'étais tellement encouragé ce matin par cette image que Dieu le fait concrètement. Ce n'est pas juste des versets qu'on lit comme des rengaines dimanche après dimanche. Sa parole est véritable et ce matin, comme si on a eu un petit bout du ciel qui s'ouvrait d'une réalité spirituelle aujourd'hui pour ta vie. Ces boucliers qui descendent devant nous, devant toi, devant ta vie, n'en doute pas ce matin. N'en doute pas ce matin. Et il te les donne pour que tu puisses rentrer dans le plan de Dieu pour ta vie, que tu puisses marcher dans l'obéissance. On a besoin de cette foi. Amen. Amen. Alléluia. Troisièmement. Premièrement, une crainte respectueuse. Deuxièmement, cette obéissance. Troisièmement, Noé avait ce désir, nous dit Hébreux 11, avait ce désir de sauver sa famille. Elle aimerait prêcher à ma place. Évidemment, cette image de la famille, elle est de manière large. Je la vois de manière large. Une image, un symbole de la famille de Dieu. Bien sûr, Noé voulait sauver sa femme, ses trois fils, puis les femmes de ses trois fils, évidemment. Mais il y a comme quelque chose de plus large pour nous aujourd'hui à en retirer. Oikos, en grec, qui nous parle de cette maisonnée. De cette maisonnée, des pensionnaires d'une maison, des personnes qui forment cette famille. Et cette famille, elle est appelée à grandir, elle est appelée à s'élargir dans ces temps de la fin, à faire la place à toute personne, de toute race, de toute nation, de tout arrière-plan qui désire changer de vie et laisser Dieu devenir leur Seigneur et leur Sauveur. Il y a encore de la place pour ces gens-là dans la maison de Dieu avant le retour du Seigneur. Avons-nous ce désir de voir notre famille, l'Église, notre famille s'élargir et de voir le salut de Dieu toucher de plus en plus de personnes pour leur éviter la perdition? Il y a quelque chose de catastrophique dans cette histoire du déluge, de grandement catastrophique. Jésus lui-même va faire cette comparaison avec l'époque de Noé pour parler de son retour sur terre, pour venir chercher son épouse, l'Église. On voit ça dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, Matthieu 24, verset 36. Jésus dira, « Pour ce qui est du jour et de l'heure de son retour, évidemment, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Waouh! Tout comme à cette époque, notre monde aujourd'hui vit sans se soucier de Dieu. On le chasse de plus en plus loin, du plus en plus loin possible de nos consciences pour pouvoir pratiquer tout ce qu'on veut sans en avoir la conscience qui travaille, la culpabilité. Nos pays changent leur constitution tranquillement pour ne plus mentionner Dieu. On parle de changer notre bel hymne national suisse, vieillot selon eux, alors qu'ils louent Dieu, qu'ils lui donnent gloire pour notre si beau pays. Et il est dit que dans cette attitude où on met Dieu de côté de plus en plus, les gens du temps de Noé ne se doutaient plus de rien lorsque le déluge est arrivé et les emporte à tous. Il y a comme un endormissement qui prend place lorsque on met Dieu tranquillement de côté et qu'on vit nos vies selon nos critères, comme on le désire, sans le consulter, sans lui soumettre les choses. Jésus précise qu'il en sera de même lors de l'avènement du Fils de l'homme, lorsqu'il viendra nous chercher. Noé est là comme un exemple héroïque pour chacun, chacune d'entre nous ce matin, pour nous rappeler qu'on a encore un rôle à jouer dans notre société aujourd'hui, dans ces temps de la fin, pour être encore et encore des lumières, des sentinelles, des gens qui sont réveillés afin de sauver, d'amener dans l'arche du salut en Jésus-Christ le plus de monde possible. Dieu retient encore la venue de son Fils pour venir chercher les siens. C'est encore un temps propice pour aller chercher, gagner des âmes. Amen. C'est encore un temps propice. C'est encore un temps propice. Ne nous laissons pas endormir, mes frères et sœurs. Ne nous laissons pas endormir. Il y a tant d'histoires dans la parole de Dieu qui parlent de cela. On a besoin que Dieu réveille un esprit de sentinelle en nous. Vierge folle s'était endormie. Et là, ce texte de l'histoire de Noé nous montre que le monde s'était endormi. Ils avaient laissé cette conscience s'endormir. Et je prie ce matin que Dieu nous garde de cela. Que Dieu nous garde de l'influence du monde dans nos vies, sur nos vies. Qu'on ait cette vigilance de l'ordre de cette sentinelle qui dit « Oh, attention, Oui, c'est vrai, j'ai été placé dans ce monde. Et puis, je ne dois pas m'excuser d'être là. Et il y a aussi des choses que Dieu a mises dans ce monde pour qu'on puisse en jouir. Gloire à Dieu. Mais aussi, on doit être comme des sentinelles. On connaît nos vies, on connaît nos travers. Tu connais les travers de ta vie. Tu sais ce vers quoi il y a une tendance naturelle chez toi à glisser vers quelque chose de péché, de l'ennemi qui cherche à nous entraîner vers un aveuglement pour marcher dans des choses. Chacun en a nos combats. Et le frère ou la sœur qui est assise à côté de toi, c'est peut-être pas les mêmes combats que toi. Mais on doit chercher à être comme des sentinelles et veiller à ça, dire « Oh là je sais que je dois faire attention, là je sais que je dois veiller, Seigneur aide-moi !» Et je veux être comme cette sentinelle de dire « Je garde mon cœur !» Noé gardait son cœur, il avait cette révérence respectueuse, il gardait ce cœur-là. Je prie qu'il en soit de même, qu'il en aille de même pour chacun, chacune d'entre nous ici. Vous savez, c'est ma crainte, on ne devrait pas avoir des craintes, je sais, mais c'est mon souci pastoral en tant que berger, de voir mes brebis, être gardé, chercher à se garder elle-même. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire les uns pour les autres. C'est chacun un choix personnel. Je ne peux pas même pas le faire pour vous. Si seulement je pouvais le faire, l'apôtre Paul même il dira, alors je n'irai pas jusque... L'apôtre Paul disait, si je pouvais donner la mienne de vie, si je pouvais la donner pour les autres, je le ferais. Si je pouvais renoncer à ce dont j'ai droit pour le donner aux autres, pour qu'il y en ait plus qui soient sauvés, je le ferais. C'est cette crainte, c'est ce souci qui était là de dire, il y a des temps qui sont là et qui sont autour de nous et qui sont difficiles et nous ne devons pas nous laisser nous endormir. Nous avons, c'est vrai, tu l'as lu tout à l'heure, Jean-Robert, nous avons un ennemi qui rôde autour de nous, et qui essaye de nous tirer en bas, qui essaye de nous arrêter, qui essaye de nous mettre des bâtons dans les roues. Nous avons besoin de nous encourager les uns les autres. Et cette image était belle, de ces boucliers qui étaient un bouclier devant chacun d'entre nous, mais qui débordait, qui allait un peu plus large et qui protégeait aussi un peu mon frère, ma sœur autour de nous. C'est magnifique ça, c'est la famille de Dieu, c'est l'unité des frères et sœurs chrétiens qui ont cette conscience-là de dire, moi, je suis sauvé, puis le salut il est juste à moi, mais il y a des choses qu'on peut partager, où on peut s'encourager les uns les autres, puis on avance ensemble, puis il y en a un qui s'est arrêté un peu sur le chemin, puis je vais aller le chercher, regarde mon bouclier, je le mets un peu vers toi, viens avec moi, on va avancer ensemble. Ça c'est la famille de Dieu, ça c'est la bergerie, ça c'est ça, être ensemble, caché à l'ombre de ses ailes, ensemble, hallelujah. Quelle belle image, amen. Vous êtes avec moi ce matin ou pas? Parce que moi ça va bien, là, je suis en super forme là, quoi. Hallelujah. Il est encore un temps propice pour aller gagner des âmes, mon frère, ma sœur. Ne restons pas cachés sous le poids des difficultés de la vie. On en a tous. Si je passais le micro ce matin, on passerait des heures et des jours à raconter tous les défis qu'on a, et les combats, et les impossibilités, et les choses qu'on vit, et les craintes intérieures, et lutte en dedans, et crainte au dehors. Non, crainte au dedans, lutte au dehors, je ne sais plus comment on dit ce vieux cantique. Et c'est vrai, on pourrait tous partager ça. J'aimerais nous dire, appuyons-nous sur Dieu, tenons-nous les coudes, et il y a quelque chose au-delà. Il y a quelque chose au-delà de ma vie, de mes souffrances, de mes défis. C'est confions-les au Seigneur. Et Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi encore au milieu de mes tribulations? Comment est-ce que je peux témoigner à quelqu'un cette semaine, Seigneur? Je ne veux pas passer cette semaine sans avoir pu raconter quelque chose de toi à quelqu'un autour de moi. Donne-moi des occasions. Il est encore un temps propice. Ce ne sera peut-être plus le cas. Dans les temps qui viendront, à un moment donné, c'est encore un temps propice pour propager. Ne nous laissons pas endormir. Ne nous laissons pas endormir, mes frères et sœurs, s'il vous plaît. J'aimerais terminer sur deux points de ce que la vie de Noé a produit. Oh yes! Premièrement, par cette foi, nous dit ce texte d'Hébreu 11, il condamna le monde. C'est un peu klaboum, ça. Hein, il condamna le monde. Mais regardez un peu ce que ça dit dans le grec. Katakrino. Katakrino, qui veut dire littéralement, regardez bien, c'est très intéressant, qui dit, ça veut dire littéralement, par son propre et bon exemple, Noé a su rendre la méchanceté d'un autre plus évidente. Par son exemple, Noé qui se tenait devant Dieu et qui avait cette crainte respectueuse et qui cherchait la justice de Dieu au milieu de ce monde corrompu autour, par son exemple, par contraste, eh bien, les gens autour de lui, ça a mis en évidence leur mauvais cœur, leur méchanceté. Waouh ! C'est ça que ça dit, littéralement, quand il a condamné le monde. C'est pas lui, je condamne le monde, je suis le juge, maintenant, c'est pas ça que ça dit. Ça dit par sa bonne conduite, son propre bon exemple, ça a rendu la méchanceté d'un autre encore plus évidente. C'est merveilleux de voir à travers ce verset que Noé a été utilisé par Dieu au milieu de ses contemporains comme cet exemple d'un homme rempli de Dieu et qui met lui-même en lumière parce qu'il est rempli de Dieu comme une lumière qui s'allume dans les ténèbres. Tout à coup, tu dis, ah, là, si on éteignait, qu'on fermait toutes les coupoles, qu'on se mettait dans le noir et puis que je vous chamboulais au milieu, toi tu vas t'asseoir là, toi, hop, tout le monde change un peu. Non, tant que c'est éteint, on ne sait pas ce qui se passe. On entend des trucs bouger, on voit qu'il se passe des machins, etc., mais on ne sait pas ce qui se passe. Puis tout à coup, hop, on allume la lumière. Plaque. Ah, dis donc, Jean-Robert, il est là-bas, et incroyable. Ah non, t'es là. Etc. Oups, tout à coup, on voit, ça met en évidence. Le fait d'être une lumière, ça met en évidence ce qui était caché, ce qui était dans les ténèbres, ça met en évidence ces choses-là. Tout à coup, wouh ! Tant que j'étais caché, on ne voyait pas ma saleté, hein. Tant que j'étais caché, je pouvais être habillé n'importe comment, les habits déchirés, je pouvais faire des grimaces, tout ce que je voulais, ça se voyait. Tout à coup, ça s'allume. Wow! Ah ouais! Wow! C'est dans ce sens-là que ça dit qu'il condamna le monde. Et notre rôle aujourd'hui, mes frères et sœurs, en tant que chrétiens dans ce monde, c'est de refléter. De refléter alors que nous, on va chercher à grandir dans l'obéissance, à grandir dans cette crainte respectueuse de Dieu, comme Noé. Alors, de refléter, on va refléter, on va rayonner de Jésus, et ça va créer ce contraste dans nos vies, rempli de l'Esprit de Dieu, rempli de son amour, rempli de sa compassion, rempli de qui il est. Ça va donner ce contraste-là, ça va faire ressortir chez les gens qui n'ont pas Dieu, le vide qu'ils ont en eux et le besoin qu'il y a en eux de Dieu dans leur vie. Alléluia. Combien de fois est-ce qu'on a entendu, combien de fois, ça vous est certainement déjà arrivé, des témoignages de personnes non-croyantes parler d'un ami chrétien et de dire, hey, il a quelque chose de plus, lui, quand même. Hein? Je ne sais pas ce qu'il a, mais il y a un truc chez lui. Hein? Alors, on utilise des mots, on utilise solaire, lunaire, il est solaire, lui. Il y a un truc qui se dégage, il est solaire. Mais évidemment, le soleil, ça dégage un truc. Hein? Donc, ils utilisent leurs mots à eux pour décrire ces choses-là. Quelque chose de lumineux qui interpelle le monde. Ça permet de faire briller le flambeau de l'Évangile et d'attirer à Dieu des personnes qui sont encore perdues. Noé, c'est notre exemple, un bel exemple ce matin, de ce qu'un homme qui se tient pour Dieu au milieu de ce monde et de ses difficultés peut faire la différence. Deuxièmement, premièrement, il a condamné le monde. Deuxièmement, ce que ça a produit chez lui, il est devenu héritier de la justice. Il est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Nous dit ce texte d'Hébreux 11. C'est absolument merveilleux de voir comment Dieu récompense ceux qui se tiennent pour lui jusqu'au bout et qui persévèrent. Noé est devenu l'héritier. C'est pas rien quand même. On parle beaucoup de cet héritage de nous dans la Nouvelle Alliance. Nous avons pu bénéficier à travers le sacrifice de Jésus à la croix. Mais là, on se trouve dans l'Ancienne Alliance. On se trouve dans cette alliance, dans cette première alliance de la loi qui est là. Et pourtant, il est dit que Noé est devenu l'héritier. Héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Dans le grec, ça parle de celui qui reçoit la possession par droit de descendance. Extraordinaire. Kléronomos. Celui qui obtient, il reçoit la possession de l'héritage par droit de descendance. Noé a été compté parmi les descendants légitimes de la famille de Dieu pour recevoir cet héritage. Extraordinaire. Extraordinaire. Parce qu'il est resté et qu'il s'est accroché fermement à la foi au milieu d'un monde pécheur. Et cet héritage, c'est un héritage de justice, nous dit ce texte. Et littéralement, ce mot justice nous parle d'intégrité, nous parle de vertu, nous parle de pureté de vie, nous parle de droiture, de pensée et d'action correcte. Littéralement, la condition acceptable par Dieu. On est tous comme Noé, mes frères et sœurs. Des gens qui ne méritions pas et qui pourtant avons obtenu cet héritage par la foi. Les héritiers de cette justice qui produit en nous les sentiments de Dieu. Ces sentiments de vertu, d'intégrité, de pureté de vie, de droiture, de pensée, d'action correcte, etc. Nous sommes les héritiers de cette justice-là, des attitudes de Dieu dans nos vies pour être ses lumières et ses témoins qui, par ce contraste avec les ténèbres du monde, montrent alors la différence autour de nous et font envie à ceux qui nous entourent de découvrir ce Dieu merveilleux. Amen. Amen. Je vais conclure. Amen aussi. Noé veut dire littéralement repos, tranquillité. Pourtant, sa vie n'a pas été de tout repos. Hein? C'est paradoxal. Il a vécu dans un temps où les hommes de la terre étaient corrompus, violents. Il a été trouvé et il a dû construire une arche pendant 100 ans de sa vie, mon pauvre ami, avec ses 3 fistons. Et il a été trouvé juste et intègre au milieu de tout ça. Et c'est qu'il a dû quand même pourtant sacrément batailler. Il a dû sacrément batailler pour se garder au milieu de tout ça, pour garder son cœur juste intègre au milieu de ces corruptions ambiantes, faire face aux moqueries et voir l'humanité détruite repartir à zéro après. C'est sûr qu'après la tranquillité, il a dû l'avoir, pas mal, quand même, hein, au niveau des voisins, tout ça, personne, plus personne pour le faire chevrer, écoute, ta haie, tu l'as mis un petit peu, tu pourrais la tailler un peu, elle déborde un peu sur mon terrain, etc. Plus de bruit de bistrot la nuit juste à côté, alors qu'il essaye de dormir, etc. Tout ça, c'est fini. C'était fini, donc il a eu une forme de tranquillité. Mais sa vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Il a su se réfugier en Dieu. Il a su se réfugier en Dieu, voir les choses qu'on ne voyait pas encore, nous dit la Bible. Hein? Voir le monde spirituel, voir les choses que tu ne vois pas avec tes propres yeux. Ça, c'est l'héritage de ceux qui se tiennent cachés en Dieu. Ouais. Le repos, il y a quelque chose du repos quand on reste caché en Dieu. Ce repos, cette tranquillité. Et ça, c'est quelque chose que personne n'aura jamais pu lui voler. Jamais. C'est quelque chose que jamais personne ne pourra te voler. Jamais. Le repos de Dieu au milieu de ce monde qui file. C'est possible. Et j'aimerais prier pour vous, pour nous dans ce sens-là, en terminant. Hallelujah, Seigneur. Hallelujah, Seigneur. Seigneur, je prie que tu nous donnes cette grâce à chacun, chacune d'entre nous, au milieu de nos tourments, nos difficultés, la tempête qui souffle parfois, d'apprendre à venir nous cacher en toi. Tu es notre secours, tu es notre bouclier. Tu es notre haute retraite, notre libérateur. Seigneur, ce matin, nous venons nous confier en toi, Seigneur. J'aimerais encourager tous ceux et celles qui passent par des temps pas faciles ce matin, à juste élever vos mains et dire, Seigneur, je viens devant toi ce matin, je ne sais pas comment les choses vont se passer, je ne sais pas quelle sera l'issue de ce que je vis là maintenant. Mais je me confie en toi ce matin, j'ai choisi de te révérer ce matin. Je choisis d'être dans l'obéissance à tes principes, à tes commandements. Je me soumets à toi, Seigneur. Hallelujah. Et tu réjouis le cœur de Dieu ce matin. Et tu réjouis le cœur de Dieu ce matin. Mais alors que ce que tu ne vois pas est en train de prendre place, ce que tu ne vois pas avec tes yeux est en train de prendre place, Dieu est en train d'agir, mon frère et ma sœur. Dieu est en train d'agir alors qu'on est en train de se parler ce matin. Dieu agit dans ta vie. Tu ne le vois pas, mais il est en train d'agir dans ta situation. Tu verras sa main, tu verras sa délivrance. Si tu choisis ce matin, comme Noé, d'avoir la juste attitude face à Dieu, au milieu de ce que tu vis. Je prie, Seigneur, que tu fortifies mes frères et sœurs, Seigneur. Je prie que tu nous gardes comme ces sentinelles, au milieu de ce monde, au milieu de nos vies, et parfois de nos tendances et de nos... Je prie que tu nous gardes comme des sentinelles, Seigneur. Oui, vigilants, alertes spirituellement, pour t'écouter et t'obéir, tout en restant caché en toi, Seigneur. On a besoin de ta grâce au milieu de nous. Je bénis mes frères et sœurs ce matin. Aide-nous, aide-moi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen.